France Culture.
Les midis de culture. Marie Sorbier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous voilà avec nous pour 1h30 d'actualité sur France Culture. Au programme aujourd'hui, je recevrai à 13h François Chéniaud, chorégraphe, chanteur, danseur. Il est aussi historien et se plaît à visiter et à métisser des répertoires et des esthétiques. Le Festival d'automne à Paris lui consacre un portrait et nous voilà chanceux car ce n'est pas moins de 9 pièces de cet artiste hybride et flamboyant que nous pouvons ainsi découvrir ou redécouvrir jusqu'en décembre. Mais vous le savez, vos midis commencent par le bel exercice de la critique. Littérature française au menu du jour avec deux romans parus en cette rentrée littéraire. Deux romans qui flirtent avec d'autres formes littéraires, des nouvelles avec Anne Serre et son Vertu et Rosalinde chez Mercure de France et une forme plus poétique avec Tambora d'Hélène Lorrain chez Verdier. Autour de la table ce midi, nos deux critiques du jour. Pierre Benetti, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique littéraire pour En attendant Nado et Virginie Bloch-Lenné, bonjour.
Bonjour Marie.
Vous êtes critique littéraire et romancière. Bienvenue à tous les deux.
Je regarde mes filles, amples comme les villes. Des mégapoles, bruyantes jusque là-bas, au-delà des gratte-ciels, quand on ne voit que le silence en elles. Des villes dans le brouillard, des villes du petit matin, celles des grues qui piquent le bleu, le blanc. Elles fonctionnent en douce, ces mécaniques fourmillantes aux règles tacites. Elles construisent leurs immeubles, réparent leurs ponts, envisagent un parc au sud, un plan d'eau pour la fraîcheur. Elle concentre le tout plein, tendu vers la croissance, l'effervescence, se débarrasse du passé en un battement de cils. Le déjà vécu, ça les ralentit. C'est un truc de vieux.
Nous venons d'entendre les premiers mots du nouveau roman d'Hélène Lorrain, Tambora. C'est le nom d'un volcan indonésien dont l'éruption de 1815 a été l'une des plus meurtrières de tous les temps. Dans ce texte, deuxième roman de l'autrice après Partout le feu, paru en 2022, toujours chez Verdier, elle ausculte la maternité dans tous ses empêchements, ses bosses, le chaos qu'elle génère dans les corps et les vies des mères, des fratries et de la société. Hélène Lorrain se sert des mots, mais pas que. Elle prend aussi possession des pages pour que graphiquement les soubresauts qu'elle décrit soit aussi visible que lisible. La catastrophe, celle qu'évoque le titre, viendra peut-être, on va en parler, dans un deuxième temps. Pierre Benetti, un premier avis rapide sur Tambora.
Je trouve que c'est un récit poème, disons, très saisissant par sa langue, notamment sur un sujet à la fois finalement très difficile, c'est-à-dire un enfant non-né et banal, la vie avec les enfants, les débuts de la vie de ces enfants. Et c'est un livre qui cherche toujours une langue pour l'expérience corporelle féminine et il en fait un vrai, oui, une vraie langue politique, oui, qui nous engage toutes et tous.
Virginie.
Alors, c'est un texte que j'aime parce que il cherche une écriture, elle cherche un style, elle a un style. Il y a des pages très belles, c'est poétique. J'ai deux bémols. Elle veut tellement faire du style qu'il y a des mots, elle invente des mots, elle a des trouvailles qui alourdissent le texte. Et le deuxième bémol, qui rejoint à ce que Pierre a dit, mais lui semble aimer, c'est l'engagement politique du livre. C'est un livre sur la destruction de la planète. Est-ce que ça vaut la peine de mettre au monde des enfants avec l'avenir sombre qu'ils auront? Et ça, je trouve que ça alourdit beaucoup le texte, ça le rend terne. Elle l'écrit à un endroit qu'elle aimerait pour ses filles. Elle écrit « Ce dont j'aimerais vous protéger, la dissolution, la dissolution de la légèreté. » Je trouve qu'elle elle dissout la légèreté avec cet engagement politique.
Alors Pierre, des romans sur la maternité, on en a lu plusieurs, beaucoup ces dernières années. En quoi celui-ci est différent? Vous disiez que c'était à la fois un sujet difficile et banal.
Oui, juste récemment, il y a eu par exemple les livres de Suzanne Duval dont on avait parlé ici, encore plus récemment celui de Chloé Corman par exemple. À mon sens, et à chaque fois, il y a des formes qui se proposent. Là, ce qui est assez étonnant, c'est que elle part de l'idée d'Ursula Le Guin, qui est une écrivaine plutôt marquée du côté de la science-fiction, mais en fait maintenant qui est complètement une référence pour beaucoup d'autrices et d'auteurs. Et Ursula Le Guin proposait des fictions paniers. Donc ça, c'est son vraiment elle tiens, Saline, c'est mis en exergue au début.
Qu'est-ce que ça voulait dire, une fiction
alors,
panier?
Alors, c'est un manifeste où Ursula Le Guin propose des formes accueillantes pour tous les types d'expériences. Et à mon sens, Hélène Lorrain, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va créer au sein même de la page des petits paniers où il y a un contenant, il y a aussi la question du contenu, et tout le livre va s'organiser autour de ça. Et à mon sens, s'il y a quelque chose d'intéressant, c'est que la maternité, la grossesse, les difficultés du corps, tout ce qui est engendré comme énorme transformation pour une femme dans le cas de la narratrice, et ben ça va passer d'abord par une expérience sensorielle du lecteur que j'ai été à ce moment-là, d'un texte très rythmé, scandé, oralisé, mais qui ne passe jamais par un discours sur la maternité. Moi, j'ai été touché du fait qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, on va en parler aussi sur la question peut-être politique. Il n'y a pas un discours sur ce que serait une maternité idéale ou à l'inverse, horriblement vécue. Ça passe uniquement par une forme qui essaye d'être dans une précision, j'ai envie de dire, pas du tout une précision de l'ordre de l'enquête ou de objective, mais une précision subjective. C'est une précision de l'expérience corporelle organisé dans un texte très organique lui-même.
Avant de vous donner la parole, Virginie, et notamment sur ces questions de forme, Pierre, en tant qu'homme, est-ce que vous êtes senti accueilli dans ce livre?
C'est une question très difficile. Alors, il y a par exemple une phrase qui m'a frappé, c'est au milieu du livre, c'est « Nous, les familles, vivons un présent en expansion perpétuelle ». Et puis à la toute dernière page, la narratrice voit des manifestations dans la rue et elle dit « Mais je ne porte pas de pancarte, je porte des enfants dans mes mains ». Moi, c'est plutôt que la question d'être un homme ou une femme, c'est la question de est-ce qu'on on fait famille, et est-ce qu'on fait famille de cette manière-là, parce qu'il y a aujourd'hui il y a quand même beaucoup beaucoup de manières de faire famille ou communauté. Donc c'était plutôt cette question-là qui m'avait interpellé, de me dire tiens, est-ce que c'est un texte qui pense aussi d'autres formes de liens? Mais bon, on va pas demander un texte qui parle de la maternité de parler d'autres liens. En revanche, en tant qu'homme, je pense, et encore une fois faudrait que je me définisse un peu mieux de ce côté-là, je pense que c'est un texte accueillant, oui, parce que précisément par la forme littéraire. Si j'avais été devant, disons, peut-être un récit essai, j'aurais eu accès à un point de vue qui s'affirme, disons, et d'ailleurs c'est très intéressant à lire aussi pour les hommes, mais on n'est pas là. Moi, je me suis trouvé accueilli par justement une forme une langue, en fait. C'est une langue commune d'une certaine manière.
Alors justement, on parle beaucoup de forme, on a employé plusieurs fois ce mot. Virginie, est-ce que vous pourriez nous dire comment elle se présente, ces pages? Quelle est l'ambition formelle d'Hélène Lorrain?
Elle est, alors, c'est l'hybride. La forme est hybride, c'est à la mode. Adèle Lyon a fait aussi un texte hybride. Il y a de la poésie, on a presque un calligramme sur une page. Il y a du récit, il y a de l'essai. Il y a des petites historiettes, des petites fictions qui sont très réussies. Elle raconte qu'un ambulancier lui a raconté des anecdotes sur les patients qu'il a pris en charge. Et c'est très court, ça fait un paragraphe, c'est très bien. Elle parle aussi la façon dont les patients survivent plus ou moins après avoir été intubés. Donc il y a prose, poésie mêlée. Je me suis demandé si c'était à la mode parce que on a une faculté de concentration qui est moindre. Est-ce que c'est pour ça que les auteurs et les lecteurs sont friands de cette forme?
Est-ce que ça attrape l'attention, finalement?
Ça attrape l'attention et ça donne envie. C'est un livre que j'ai aimé, mais pas complètement. Mais je me dis que je le rouvrirai et je sais que je tomberai sur des pages. Je tomberai forcément sur un morceau de la page que j'ai aimé. Ce sont des fragments. Alors, bon, c'est un avantage, on peut faire sans marcher, comme ça. Là où il y a un bémol, c'est que parfois, cette forme poétique, elle n'est pas toujours justifiée par le fond. Et puis, il y a le passage à l'essai qui, je le disais, est alourdi un peu. Le titre du livre est Tambora, c'est le nom d'un volcan indonésien qui est entré en éruption en 1815 et qui aurait déréglé la planète entière. Il n'y a pas eu d'été cette année-là. C'est au milieu du livre que Hélène Lorrain en parle pour amorcer un discours sur la nécessité ou pas de mettre au monde des enfants actuellement. Et ça, cette partie essai qui est documentée, où il y a aussi une partie sur dans ce même endroit sur Marie Shelley. Je suis moins convaincue.
On va revenir sur cette partie politique, mais vous vouliez réagir.
Je voulais rebondir sur la question de l'hybridité. Je trouve vraiment qu'elle évite un effet de mode qui peut être vraiment agaçant hein, dans la littérature contemporaine, notamment parce que, justement, pour revenir à la question de la fiction panier, j'ai pas dit tout à l'heure le fait qu'il y a une idée de récit ou de texte composite, c'est-à-dire par définition, des textes qui vont à la fois avoir de la continuité, et à mon sens, là, il y a de la continuité, c'est pas seulement fragmentaire, il y a vraiment une évolution, il y a des parties construites autour, justement, des différents enfants, hein, avec des noms quasiment sortis de contes ou de mythes, hein, la grande petite, le calme et la petite. Donc là, il y a vraiment, moi je trouve un livre qui est continu, qui ne se fragmente pas en permanence, hein, on peut pas vraiment le commencer, à mon sens, on peut pas commencer par la fin, le prendre au milieu, etc. Mais surtout, il va mélanger des bouts, des morceaux, des restes. Ça, j'aime bien l'idée, enfin, moi, ce qui m'est venu, c'est des sortes de restes d'histoire, les restes d'histoire de la maternité, par exemple.
Des et traces.
Par exemple, notamment, on n'a pas encore parlé du fait que tout le début du livre est consacré à... J'ai plus envie d'employer, à vrai dire, cette expression, puisqu'elle la remet en cause et elle la questionne, une expérience de fausse couche. Et c'est assez intéressant tout le travail de langue qui est fait, de réflexion sur comment on appelle cette expérience-là, que ça soit en allemand ou en anglais, où à chaque fois, on parle plutôt d'un échec ou d'une erreur. S'il y a au moins un aspect positif de ce livre, c'est que il va, en tout cas, me questionner sur à chaque fois dire, ah ben, c'est une personne qui a fait une fausse couche. Voilà. Donc, il y a quand même un aspect assez important.
Vous avez un mot nouveau? Elle propose un mot nouveau?
Non, elle en propose pas, mais en tout cas, elle va essayer de déplier la réalité de cette expérience qui est évacuée, et je veux revenir à cette idée de reste. Et ben cet enfant non-né, il devient dans ce livre une personne et donc un personnage du livre. Et ça, franchement, il y a une émotion qui est quand même assez folle, enfin que j'ai réellement ressentie pendant tout le premier tiers du livre. Peut-être que le livre perd en intensité à la suite, mais c'est un peu normal vu la difficulté aussi de cette expérience. Tout ça pour dire que si c'est hybride, c'est parce que il y a une idée quand même de composer un livre avec des bouts de choses qui a priori ne seraient à mettre à l'écart ou disons pas très valorisées dans la littérature. Et notamment, bon bah on croise le volcan Tambora, on croise aussi le manuscrit du premier livre d'Hélène Lorrain, toute l'histoire de Marie Shelley. Moi j'ai trouvé assez passionnante de voir qu'en fait Marie Shelley c'est quelqu'un confronté à des deuils successifs et qui écrit Frankenstein, donc question aussi de la création et création composite d'ailleurs à ce moment-là de 1815-1816.
Virginie, une des questions, et vous l'avez dit, hein, posée par ce livre, c'est peut-on encore faire des enfants aujourd'hui dans ce monde alors que tout déraille? Est-ce que l'autrice apporte des réponses? Comment elle est traitée cette question?
Elle la traite, la réponse, elle adore ses filles, donc la réponse est plutôt oui, mais elle s'interroge sur la dette, ce qu'elle laissera, et ça vient plutôt à la fin, et je trouve que ça croise ce qu'elle écrit de très beau sur la maternité. Contrairement à Pierre, je trouve qu'il y a des choses sur ce que c'est être parent, et elle a de l'humour là-dessus.
C'est juste pas la même intensité de langue, c'est normal.
Enfin, oui, parce qu'elle décrit très bien la fatigue d'une mère. À un moment, je vais crever. Elle n'en peut plus. Elle dit aussi qu'elle est une mère qui n'est pas toujours au rendez-vous, alors que le père, qui est très peu présent, le père, c'est une mère. Donc, il y a... J'ai eu l'impression que c'était un petit peu artificiel, mais c'est sans doute ce qu'elle ressent. Donc, parce que la maternité, elle vaut la peine, selon Hélène Lorrain. Donc, c'est un.
Elle passe à côté d'un propos politique ou elle y va quand même?
Non, elle y va, mais je ne sais pas si. Non, elle ne le développe pas. Elle ne le développe pas. Il est comme ça, à l'horizon. Et je ne sais pas si c'est le lieu. C'est pour ça que cet essai, cette ébauche d'essai dans le livre, pour moi, ne fonctionne pas.
Pierre Piatin, un mot sur cette histoire politique.
Ouais,
c'est un livre politique ou
d'accord.
Pas
À mon sens, c'est intrinsèquement politique, parce qu'elle n'envisage pas, à mon sens, Hélène Lorrain, une écriture qui ne le serait pas. C'est-à-dire que de parler du corps des femmes, c'est immédiatement pour elle, je ne dis pas en soi, mais en tout cas dans ce livre-là, c'est inévitablement politique parce que ça engage des discours sociaux, ça engage des corps qui sont tout le temps parlés par le discours médical ou par le discours social, où on a toujours un avis sur les femmes enceintes, etc., etc. Et là, au contraire, la précision, enfin le travail de construction de la langue, on n'a pas le temps forcément d'entrer dans des détails, mais c'est un peu une langue faite de briques et de brocs. Il y a des, par exemple, il y a des expressions soudain pour parler quand même de l'enfant qui n'est pas né, la colloque avec le vaisseau coulé. Franchement, faut la trouver. Enfin, il y a des formes d'expressions qui surgissent comme ça.
Il y a un travail sur les mots.
Il y a de la drôlerie aussi.
C'est drôle, c'est vrai qu'on l'a pas dit. Oui.
Et donc, c'est politique parce que c'est un texte qui nous accueille et donc qui crée un espace quand même commun au-delà des différences hommes-femmes et de la question que vous posiez tout à l'heure, Marie. Mais c'est aussi politique parce que ça engage quand même sur une question un petit peu répandue de quel monde laisserons-nous à nos enfants, comment assumer de donner la vie dans un monde qu'on détruit. La question du corps, en fait, elle est au centre tout le temps. C'est une écriture très, très, très corporelle, enfin très sensuelle, mais aussi dans ce qu'il y a de dégoûtant ou de dégradant ou de. Et moi, c'est ce qui m'a intéressé aussi dans la partie sur la maternité, c'est que rien n'est évacué et de parler du corps et aussi du monde qu'on détruit et en même temps qu'on essaie de construire, c'est pour moi ça tient la route.
Tambora d'Hélène Rollin apparu chez Verdier et ce roman est toujours en lice pour le prix Veplaire.
12h-13h30. Les midis de culture. Marie Sorbier.
Le deuxième objet littéraire à notre programme se compose de 30 histoires courtes, des nouvelles, qui esquissent un portrait en creux de la narratrice qui est aussi autrice. On y rencontre ses amis, on aperçoit son enfance, on comprend par touches délicates ce qu'être écrivain peut vouloir dire. Et puis, plus le portrait se dessine, plus on s'approche d'une définition possible de la littérature. Difficilement réductible à un genre, Anne Serre offre à ses lecteurs, avec Vertu et Rosalind, un livre délicieux, léger et grave. Anne Serre avait reçu le prix Goncourt de la Nouvelle en 2020 avec Au cœur d'un été tout en or. Et ce dernier roman est dans la deuxième sélection du prix Médicis et toujours dans la sélection du prix Veplaire. Un premier avis rapide, Virginie Bloch-Lenay.
C'est l'un de mes livres préférés de la rentrée. Je trouve que c'est une grande écrivaine. Une grande écrivaine, vous avez parlé de... vous avez dit délicieux. C'est une grande écrivaine de la légèreté, de la subtilité. Elle attrape ce qu'elle appelle les petites distorsions des émotions. Elle regarde le monde, elle regarde les gens. C'est un livre sur l'amitié qui a plein d'humour, de fantaisie. Il fait penser à l'ironie du 18e siècle et il fait penser à l'humour anglais. Elle pourrait être une écrivaine britannique.
Pierre Benetti, est-ce que la prose d'Anne Serre a eu le même effet sur
vous? Ah oui, énormément. J'en ai profité pour lire d'autres livres d'Anne Serre. Pour moi, ça a été un peu une entrée dans son monde et c'est une entrée très réjouissante. Virginie a employé le mot fantaisie. Je suis absolument d'accord, c'est très fantaisiste au sens de l'imagination, mais c'est très facétieux aussi et j'aime énormément les facéties d'Anne Serre et c'est vraiment merveilleux. Il faut absolument la découvrir parce que je pense que les lecteurs francophones la connaissent finalement moins que les anglophones. Enfin, on pourra en reparler après. Mais c'est une écrivaine de l'observation de la vie d'une finesse assez implacable, à vrai dire. Il y a quelque chose d'implacable, j'ai envie de dire. Puissante, ingénieuse, mais aussi une observation des récits dans nos vies. C'est-à-dire tout le temps relié à la question est-ce que vivre, ce serait pas raconter des histoires?
J'étais folle du nom de ma nouvelle amie. S'appelait Vertu tout de même, et Angenehm qui signifie agréable en allemand. Vertu, agréable, comme un personnage de conte. En arrivant, nous avions visité la maison. Quelle chambre préfères-tu? M'avait demandé Vertu. Nous avions fait assaut de courtoisie. Et toi, choisis celle que tu préfères, etc. J'étais au premier, et elle au rez-de-chaussée, dans des chambres assez semblables, avec petits bureaux sous la fenêtre donnant sur le jardin. Et tandis que je travaillotais au mien, prenant des notes, faisant des listes, n'écrivant pas vraiment, je pensais à Vertu, située exactement au même endroit, juste en dessous. Et j'avais l'impression d'être dupliquée en quelque sorte, ce qui n'était pas désagréable.
Virginie, pour revenir sur la structure du livre, 30 histoires courtes, est-ce qu'elles peuvent être lues séparément? Comment décririez-vous cette construction?
Elles peuvent être lues séparément. C'est une même narratrice, on le comprend au fur et à mesure, qui raconte ces 30 histoires. Elle a différents âges.
Ce n'est pas chronologique.
Voilà, ce n'est pas chronologique. Il y a des thèmes. Anne Serre dit que la construction est très travaillée. Ça se termine sur la mort. Il y a le thème de l'amitié, il y a les femmes, mais quand on le lit, c'est extrêmement délicat, c'est très subtil, ce n'est pas visible, mais on peut les lire les unes indépendamment des autres.
Mais Pierre, pourtant, ça crée quelque chose, l'ensemble crée quelque chose.
Ça crée une... Pierre parlait, a utilisé le mot implacable, il y a une éthique, je trouve, chez Anne Serre, une éthique de l'amitié, une liberté. Pierre parlait des autres livres qu'elle a écrits. Elle a écrit en 2012, je crois, un livre qui s'appelait « Petite table soit mise », où qui raconte l'histoire d'une famille, des parents qui jouent, qui ont des jeux sexuels avec leurs trois filles. Je ne sais pas si maintenant ça pourrait être édité. Et c'est très gênant, mais ce n'est jamais glauque. Donc ça, oui, il y a une éthique qui se dessine. Je suis toujours d'accord avec la narratrice. Cette narratrice, elle aime que les gens soient joyeux. Un jour, elle rencontre un homme qui n'est pas joyeux. Elle dit, bah, ça ne doit pas être très rigolo pour lui. Il faudrait qu'il rencontre plus de gens qui lui racontent des choses amusantes dans sa journée. Elle est droite. C'est quelqu'un de droit, de vertical. Elle a un sens de l'amitié. Elle a une amie qui a d'autres amis. Elle n'aime pas la voir quand elle n'a pas cette relation exclusive avec elle. Elle observe aussi, lors d'un pique-nique, qu'une femme qui emmène des enfants pique-niquer est moins sympathique avec les petites filles qu'avec les petits garçons. Elle observe ces petites choses-là. Elle ne fait pas la morale, mais elle note des conduites quand même.
Pierre, un mot sur la langue. Comment vous pourriez définir la phrase d'Anne Serre et quel effet elle produit chez vous ?
Non mais décidément, j'ai vraiment droit aux questions les plus difficiles.
Bien sûr.
Alors l'effet, c'est une sorte de jubilation, j'ai envie de dire. Jubilation qui est liée à l'inattendu. Il y a un inattendu dans la construction du nouvelle. Faut quand même. Enfin, j'ai pas envie d'appeler ça nouvelle. Mmh. Je pense que ce sont des histoires ou des historiettes.
Historiettes parce qu'elles sont très courtes.
C'est un peu désuet. C'est très court. Parfois, ça fait 3 pages. Mais elles vont toutes se relier au bout d'un moment. Et notamment, il y a des effets de chute qui vont au-delà, en fait. Je vais revenir à la langue, bien sûr, mais il y a des effets de chute qui vont au-delà, vous savez, des nouvellistes qui savent nous emporter à la fin, comme ça. Il y a quelque chose d'inattendu dans le déroulé. On se dit, mais pourquoi elle me parle de ça? Pourquoi elle me raconte quelque chose qui a l'air complètement banal et anodin? Et soudain, ça fait sens, mais à un niveau quasiment de penser sur la vie, de vraiment, enfin, on est devant nos propres vies. Enfin, c'est quand même un art de la littérature assez poussé. C'est une écrivaine un peu des choses trappes. Elle fait des facéties, comme un lutin. C'est très étonnant, mais à l'intérieur même des phrases, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'enfance. Elle nous raconte quelque chose. Je parle même dans une seule phrase, ou dans l'histoire. Elle raconte quelque chose. Hop, elle passe à une autre. On croit qu'elle nous parle d'un sujet, hop, on en découvre un autre caché à l'intérieur. Et c'est tout le temps merveilleux.
Virginie, qu'est-ce que ces historiettes, pour reprendre le mot de Pierre, racontent du métier d'écrivain ? Parce que cette narratrice, elle écrit aussi.
Alors, elle écrit, on imagine une narratrice célibataire, solitaire, qui est amie avec les femmes, qui est malicieuse avec ses lecteurs, malicieuse aussi quand elle les rencontre. C'est voilà, quelqu'un de solitaire qui observe beaucoup. Il y a une très jolie historiette où elle est en librairie, elle fait une lecture et il y a quelqu'un dans le public qui lui dit « Mais vous parlez beaucoup des femmes, non ? J'ai l'impression. » Et elle commence à rire et c'est là le côté conte d'Anne Serre. Elle rit, elle part dans un fou rire qui va finir par l'étouffer. Et elle va répondre à cette femme en disant « Mais il se trouve que, oui, récemment, je rencontre plusieurs femmes. Je trouve que les femmes portent des noms de plus en plus jolis. Il se trouve que j'ai été aidée par telle ou telle femme. Mais je n'aime coucher avec des femmes, non. Je suis hétérosexuelle, non. Mais oui, sans doute suis-je très entourée de femmes. » Donc, elle raconte la liberté, je trouve, de cette écrivaine. On l'imagine en femme seule et libre.
Est-ce que vous avez trouvé aussi cette attention du féminin dans ce livre-là, Pierre ?
Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qu'elle évite de faire, justement, c'est de définir cette narratrice comme une femme ou qui se rattacherait à la société d'une manière ou d'une autre. Elle se rattache à l'art. Elle se rattache à l'art des histoires, à l'art de raconter des histoires systématiquement. D'une certaine manière, elle pourrait prendre la place d'autres, quasiment de beaucoup de ces personnages, qu'ils soient des hommes ou des femmes. J'ai l'impression que c'est pas trop son problème. Enfin, j'ai l'impression qu'elle va pas sur ce terrain-là. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est de voir que tout au long du livre, eh bien, c'est indissociable raconter des histoires et vivre sa vie. On dirait qu'on ne peut vivre que en racontant. Elle se définit par voilà, c'est ça. Si c'est une femme à ce moment-là, c'est une narratrice. J'ai envie de dire que c'est vraiment un personnage de narratrice tout le temps. Et elle rencontre d'ailleurs aussi des narrateurs.
Donc la narratrice est différente de l'autrice, d'Anne Serre. Est-ce qu'on les confond? Non,
oui,
on ne se pose pas la question.
On se pose même plus la question.
Oui,
bah, peut-être, mais
oui,
moi,
c'est oui.
Même.
Pas d'enfant.
Je ne sais plus. Oui, peut-être. Ouais. Mais vraiment, j'ai aimé rencontrer cette narratrice. Elle a écrit un livre très beau qui s'appelle Le Narrateur, qui est très court. Et ce que je voulais dire, c'est que on se demande toujours si À quel moment le texte va atteindre, vous savez, elle fait souvent des comparaisons entre l'écriture et la promenade. Il y a beaucoup de randonnées, il y a beaucoup de personnages qui marchent, la narratrice marche beaucoup, etc. Elle parle de la progression littéraire. Et en fait, chaque histoire monte, progresse, et on atteint un point. Alors c'est très difficile de le repérer, parfois c'est évident, parfois moins. Et d'ailleurs, elle rencontre aussi dans une histoire un ami écrivain qui est bloqué à ce point-là, donc c'est assez marrant. On a l'impression qu'il est bloqué au sommet et il sait pas comment redescendre. Et moi je me suis dit, tiens, c'est quoi le point médian ou le c'est pas le sommet en termes de puissance, c'est pas le problème, c'est un niveau comme ça où on a atteint une stabilité. Et pour moi, mais alors peut-être que c'est chaque lectrice ou chaque lecteur, on l'atteint dans une histoire qui est, à mon sens, la meilleure, ou celle qui m'a le plus touché, qui s'appelle Un petit manteau espagnol, et qui commence par cette phrase extraordinaire et extraordinairement simple. On est léger, virgule, parfois. Et en fait, c'est une histoire qui raconte la correspondance d'un désir personnel avec la réalité, et à mon sens, qui raconte aussi le point où l'autrice, Anser, mais aussi la narratrice, correspond à son désir et à son sujet.
Peut-être un dernier mot rapide, Virginie, sur Anser. On disait qu'elle n'était peut-être pas assez connue en France.
Oui.
Pourquoi ?
Mais je ne sais pas. Elle a été en finale du Booker Prize International pour récemment, au mois de juin.
Pour un chapeau léopard.
Pour un chapeau léopard qui était sorti en 2008, je crois. Pourquoi ? Je ne sais pas. Elle est discrète. Elle est discrète. Elle a plus de 60 ans. Je ne sais pas. Parce qu'elle a une langue classique. Parce que je ne comprends pas.
Et c'est un bon roman pour
c'est
rentrer
le
dans son.
C'est, pour moi, c'est la meilleure entrée dans l'œuvre Vertu et Rosalinde parce que elle a des textes un peu bizarres qui sont très sur l'écriture justement. Celui-ci est très accessible et immédiatement charmant.
On peut lire aussi un excellent entretien qu'elle a donné à Faya Derwicz-Yotis dans la NRF. C'était cet automne. Elle donne un peu des clés de compréhension un peu de son univers. Donc je le conseille. Mais celui-là est un très beau livre. Et il faut pas avoir peur du fait que c'est précisément un livre qui correspond pas ni à ce que ce serait un roman, ni à ce que ce serait un recueil de nouvelles. Ce sont des très belles histoires et des histoires de vie.
Et elle dit qu'elle aime beaucoup, particulièrement Vertu et Rosalinde. Mais elle peut pas expliquer pourquoi. Elle dit celui-ci, je l'ai vraiment très bien réussi.
Et les noms de ces personnages, on pourrait faire une émission.
Juste sur les prénoms. Et il nous reste quelques secondes pour vous, la narratrice et l'autrice. Virginie, je vous ai coupé la parole sur ce sujet.
Oui, pour moi, oui. Il se trouve que je l'ai rencontrée. Elle a cette délicatesse, cette fantaisie, cette éthique. Cette élégance, la petite robe dont parlait Pierre, elle est très élégante et elle est énigmatique, Anser. Peut-être que c'est pour ça aussi que qu'elle n'est pas suffisamment connue. Mais il faut la lire. C'est la plus, une très grande écrivaine française contemporaine.
Bien, je crois que vous avez donné très envie à tout le monde de lire Anser, Vertu et Rosalinde, donc d'Anser, apparu au Mercure de France. Merci beaucoup Virginie Vlocquenet, merci Pierre Benetti pour vos lectures et vos avis, et vous retrouverez toutes les références de ces deux romans sur la page des Midi de Culture sur le site de France Culture.